Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jean-Yves Sandré, qui publie Sproum, roman avorté et récit de mon mal chez Actes Sud. Et si c'était ça? Depuis plusieurs années, Jean-Yves Sandré, vous vivez à Berlin avec votre femme, Marine Diaye, et vos enfants. Je me souviens que vous m'aviez dit à l'époque vous établir là-bas pour fuir une France un peu nauséeuse, qui était la France du précédent président de la République.
Oui, alors ce n'était pas que pour ça. Effectivement, vous vous souvenez, vous évoquez sans doute, bonsoir, vous évoquez la polémique, le Raoult, réputé pour sa finesse, avait tenté d'engager à l'endroit de Marine Diaye, mais on avait répondu aussi que ce n'est quand même pas ce petit personnage qui a été président 5 ans qui avait disposé de nos vies. On a presque profité de sa regrettable élection pour lever le camp, chose qu'on avait déjà faite d'autres fois. Simplement, oui, à cette époque, nous trouvions bien d'être un peu loin de cette France-là. De fait, plus récemment, en 2012, c'est ce qui motive sans doute votre invitation aujourd'hui, je me suis trouvé assez mal dans ce Berlin-là.
Voilà. Alors, je rappelle aussi que vous avez publié pas loin d'une vingtaine de livres avant celui dont nous allons parler ce soir. Il y en a eu un certain nombre chez POL, dont Oublier Berlin, en 1994. Ensuite, quelques titres aux éditions de l'Olivier. Et enfin, vous voilà chez Actes Sud depuis 2009, avec Honecker 21, dont vous étiez venu nous parler ici. Puis, l'an dernier, Mélancolie Vandale. Alors, celui-ci a un titre et un sous-titre. Les deux sont sans doute importants. Sproum, bon. On connaît le mot qui n'est peut-être pas très familier à tout le monde. Faire du sproum, c'est engager une dispute violente.
Faire du barouf. Dispute violente, c'est en tout cas du bruit. Alors,
protester.
Protester, mais c'était un titre de travail, c'était le titre du roman qui s'écrivait, qui ma foi ne s'écrivait pas trop mal, titre que d'ailleurs j'avais en tête de conserver sans être certain que j'allais d'emblée emballer mon éditeur avec cela, mais je commençais à le trouver agréable, en tout cas sa familiarité me plaisait. Et puis, puisqu'il est advenu que ce roman est resté inachevé du fait que celui qui l'écrivait a vu son état, on va dire, intellectuel et physique se dégrader au fil des mois, sa rédaction de ce livre devenait véritablement pénible et si pénible que une morbidité... de moins en moins supportable s'insinuait dans les lignes comme elle s'insinuait dans ma vie. Les troubles, on va dire, ne sont pas anodins, mais sont banals. Quelques migraines, vous n'y avez jamais été sujet, mais bon, c'est pas plus grave que ça, c'est juste ennuyeux. Et puis ça devient une migraine continue, plus entêtante. Et puis, vous voyez que la fluidité de votre pensée n'est pas la même. Vous commencez à chercher les mots. Alors un écrivain cherche ses mots, mais dans la vie courante, vous sentez qu'il y a... Je l'ai décrit plusieurs fois à mon épouse à cette époque comme une sorte de processus électrique qui ne s'accomplit pas, une sorte de court-circuit inédit. Et puis, le sommeil que j'ai toujours eu excellent. J'ai gardé de l'adolescence le goût de me lever à midi. Et là, en revanche, je suis quasiment jeté du lit à 4 heures du matin par des sortes d'appréhension qui tourne à vide, car quand je fais le bilan de ma vie, à cette époque-là, comme de fait aujourd'hui, je ne vois aucun motif de me plaindre de mon sort. Je suis en bonne santé, je n'ai aucun problème ni d'argent, ni sentimental. Je pourrais presque être, si je voulais tirer des bilans quasiment mathématiques, est un homme qui a réussi sa vie entre... une enfance, une adolescence très mal partie, et puis les profits d'une vie amoureuse et littéraire intense, me trouvaient vraiment gagnant. Mais là, l'angoisse gagne. Elle a une forme, elle aussi, inédite, curieuse. Mmh. J'étais bien sûr déjà confronté à des événements difficiles, mais là, donc, c'est nouveau.
Tout d'un coup, tout va mal alors que tout va bien.
C'est cela. Et puis les... Le corps se déglingue aussi. Alors, 55 ans à l'époque, j'avais l'âge d'avoir de l'arthrose, pourquoi pas. Mais il a fallu que je valdingue dans un escalier parce que je m'appuyais sur une jambe de moins en moins sûre pour que je me retrouve entre les mains d'un rhumatologue, un mot affreux, n'est-ce pas ? Vous passez chez le rhumatologue, et ça doit dire quelque chose. Mais le rhumatologue... après examen, radio et compagnie, il vous dit qu'il aimerait bien avoir vos genoux. Il vous trouve en pleine forme et il ne comprend pas pourquoi vous souffrez autant. Il n'y a aucune raison pour cela. Et puis, ainsi de suite. Mmh. C'est-à-dire qu'après, il y a quelques troubles cardiaques. Et puis, des problèmes d'orientation. Et puis, des brûlures très étranges de la peau au niveau du cou. Brûlures invisibles, mais qui démangent. C'est atroce. Et là encore, jamais d'explication. Ici, une analyse de sang parfaite. Là, un électrocardiogramme à faire rêver un marathonien. Enfin, je veux dire... Alors, tout ça, évidemment, m'obligeait à des petits jeux pour confesser mon goût pour le whisky, les cigarettes. Mais quand on vous trouve un cœur de grand sportif, c'est une sorte de bonbon qu'on vous tend. Mmh. Vous le
Alors,
prenez.
On va voir, Jean-Yves Sandré, le récit du mal, puisque le livre que vous publiez aujourd'hui est en deux parties. Le roman avorté est là. Et ensuite... vous faites le récit de votre mal à partir de janvier 2012, quand vous êtes contraint à l'abandon de ce roman que vous appeliez roman fauve. Peut-être est-ce lui qui a sorti ses griffes pour essayer de vous abattre ?
Non, moi j'étais bien avec ce roman-là, d'une certaine manière... Vous avez l'expérience de l'écriture, vous savez ce qu'il en est. À un moment, on sent qu'on tient son objet. Il y a une grande liberté jour après jour. Il y a des surprises, mais l'objet est déjà dans l'esprit. Et celui-là, je le sentais très bien. Donc il y a eu une frustration. Le personnage...
Vous aviez deux héros, hein, deux héros... au nom peu commun. Oui. Il est difficile à prononcer.
Voilà, donc il avait du coup gardé une sorte de surnom, son nom polonais étant imprononçable. Il était pour ses petits camarades moqueurs devenu Wall Street. Et ce nom de Wall Street lui était resté. Et au moment où je le laisse un soir, eh bien, il est dans un bus sur la Kantstrasse. Et voilà. Et ce bus reste à l'arrêt. Et les mois qui vont suivre vont être des mois de péripéties, certaines du plus haut comique, parce que quand vous ne savez pas de quoi vous souffrez, vous ne savez pas si vous devez fuir quelque chose ou aller au-devant d'autres choses. Donc vous prenez des initiatives, elles sont parfois évidemment très malheureuses, mais aussi pittoresques. Il y a une chose que la maladie, j'hésite à employer ce terme, parce que qui est malade, la société ou moi en l'occurrence. Moi, j'ai tendance à penser que j'ai été frappé. Donc, je suis intolérant, voilà. Intolérant revendiqué, intolérant à une chose que je n'avais pas encore nommée et que je découvrirai au bout d'une dizaine de mois être l'électrosensibilité.
Oui, mais vos héros de ce roman avorté sont menacés d'un horizon de déchéance, d'amertume, de culpabilité. On sent que ça pointe. Ils vont se lancer dans des productions artistiques personnelles, mais bon, est-ce que ça va aboutir? On ne sait pas trop. À tel point que même ils se posent la question de savoir si une analyse ne ferait pas l'affaire.
Oui, mais alors, ces œuvres de cette production d'art brut maison, c'est la mienne, parce que j'ai des goûts très étendus. Il n'y a pas que la littérature, j'ai un goût violent pour la nature, le jardinage, les arbres, la peinture, la sculpture, le béton, la soudure. J'aime tout ce qui peut s'apprendre de manière autodidacte. L'amour, la littérature, c'est autodidactique. Tout le reste, en revanche, comme par exemple l'apprentissage de l'allemand, malheureusement, réclame un travail qui heurte quelque chose d'ancien en moi. Et donc, je jouais avec ces personnages parce que leur rapport, le rapport de ce couple est très brutal, mais en même temps, il est très comique, sarcastique. On ne sait pas où on va, on peut frissonner un peu, mais quand même, je savais où j'allais aussi. C'est-à-dire que quand bien même leur histoire se dégrade et devient assez moche, c'est pas facile de vieillir et c'est pas facile de mourir. Et est-ce qu'au bout de ce qui a été un merveilleux amour et qui devient un carnage domestique, est-ce que finalement, il ne faudrait pas aller se coucher ensemble sous la pierre pour se consoler de ce qui reste à tirer, c'est-à-dire l'éternité, le vide et rien, parce que ni Dieu, ni maître.
Alors ça ne devait pas être drôle à écrire tous les jours.
Si, moi ça me réjouissait vraiment. En dépit du fait que je n'avais jamais eu à le faire en luttant contre mon corps. Il avait été jusque-là docile.
Et tout d'un coup, il y a ces funestes interférences à partir de janvier 2012, dont vous incorporez d'ailleurs des échos dans le texte inachevé du roman.
Voilà, quand, en fin de compte, j'ai compris, il y a des étapes. Donc, c'est le moment de la suspicion. Après avoir beaucoup voyagé, donc tenter, on va dire, d'aller plutôt au-devant de choses nouvelles, comme je le disais tout à l'heure, que fuir, je ne savais pas ce que j'avais à fuir. J'ai quand même vu qu'ici, c'était moins mal que là. J'ai vu que là, ça devenait plus violent à chaque retour et commencer à suspecter que le mal pouvait être de caractère environnemental. Et au retour des vacances d'été, où finalement je m'étais bien retapé, là le mal est revenu avec une violence accrue et en quelques jours tous les profits étaient perdus. Et victime d'un acouphène terriblement violent, vu cet acouphène croître au moment où je m'approchais de la fenêtre et notamment de l'antenne de mobile, l'antenne de téléphone, qui avait été posée au début de l'année sous mes fenêtres, en face de chez moi, sur le toit d'en face, et doublé pendant l'été.
Il faut parler de votre chez-vous, justement, qui n'est pas n'importe quoi, c'est un immeuble de Le Corbusier.
Alors ça, ce que vous évoquez, c'est mon bureau, qui était à 4 km de l'endroit où je vivais. Le problème se posait, et sans doute pour cela que mon sommeil en était si durement affecté, c'est à l'endroit où je vivais, assez proche de quelque chose qui ressemble furieusement à la Tour Eiffel et qui est la tour d'émission de radio de Berlin, qui émet énormément, elle était de très grande puissance. Et puis, en fin de compte, j'ai observé que, sournoisement, au fil du temps, les toits, terrasses de tous les immeubles voisins s'étaient couverts d'antennes. Et je me suis simplement dit, et si c'était ça ? Vous avez ouvert sur cette phrase. Et je suis allé aux informations. Et la stupeur. En France, le sujet est moqué, méprisé, où on aime tenir dans l'ignorance une population dont on considère qu'elle n'est pas une opinion publique. Et à partir de là, la manipulation est plus facile. Et en revanche, en Allemagne, 1000 médecins allemands, dès 2002, avaient dit arrêter de traiter de psychosomatique ces affections nouvelles. Nous, médecins de ville, dans nos cabinets, voyons des gens qui souffrent de pathologies qui sont imputables à l'électrosensibilité.
Mais enfin, il y avait aussi une brûlure que vous ressentiez, une brûlure sans rougeur, mais qui rongeait votre nuque, et des migraines.
Et des migraines qui devenaient véritablement insupportable. Et ce que je n'ai pas supporté non plus, c'est de découvrir qu'en fin de compte, 1000 médecins avaient posé ces diagnostics, écrit un appel qui s'appelle l'appel de Fribourg, contresigné par des dizaines de milliers de praticiens, réédité 10 ans plus tard, donc au moment où je souffrais, et qu'en fin de compte, le premier rappel, ce premier rapport médical, en fin de compte, était une sorte de résumé de ma vie à Berlin en 2012. S'il donnait 15 symptômes, j'en avais collectionné une bonne douzaine. Et tout était là. Et donc, à partir de là, j'en ai tiré les conséquences. Si vous souffrez de cela, si l'électrosensibilité est la cause de vos souffrances, eh bien, vous tentez un certain nombre de procédures, comme de proscrire de votre univers domestique tout ce qui peut être source d'ondes électromagnétiques.
Vous avez vu pas mal de médecins, dont votre médecin de famille en France.
Oui, alors la France a une façon de procéder. L'allopathie traditionnelle fait que quoi ? Vous avez des migraines entêtantes, on va vous donner quelque chose pour la migraine. Vous avez des problèmes de sommeil, on a quelque chose pour ça aussi. Vous avez des douleurs articulaires, il y a des rhumatologues, il y a des anti-inflammatoires, etc., etc. Et rien n'est traité sous l'angle de l'individu. Cette floraison de symptômes sur une période assez courte aurait dû amener à rechercher un élément commun, notamment environnemental, alimentaire, etc. Il y a une prise en compte de toute la personnalité. Et ce travail, j'ai été obligé de le faire seul. Il m'est arrivé, bien sûr, un épisode plus violent encore que les autres, avant que ma compréhension ne devienne entière. Et c'est produit en France, à Paris, ville où je me trouvais fort mal, épuisé. J'étais venu vous voir à cette émission. Je faisais des efforts qui, je l'espère, étaient discrets, mais pour tenter de garder une concentration minimale, pour ne pas me perdre, m'égarer. Je me sentais véritablement en danger comme jamais, en danger de m'effondrer dans mon propos. Une sorte de capitulation, mais qui n'était pas d'ordre strictement physique. C'est ça qui était étrange. Et à chaque fois que j'en souffrais, il y avait aussi une sorte de curiosité qui s'exerçait, parce que j'avais le sentiment qu'il n'était pas impossible que j'arrive à mettre un nom là-dessus, qui soit autre chose qu'Alzheimer ou tumeur au cerveau. Et parce qu'on glissait vers ça, évidemment. Ces symptômes que j'évoque peuvent être aussi celles de ces pathologies-là, et j'avais l'âge de les collectionner. Mmh. Et
donc à Paris, vous étiez à l'hôtel et une nuit, ça allait très mal.
C'est la nuit où j'ai vraiment cru mourir, parce que là, les troubles sont devenus d'une violence inouïe et j'ai perdu connaissance. Juste avant de perdre connaissance, j'ai fait l'expérience de la mort pour la première fois de ma vie. Il m'est arrivé déjà d'y être confronté, circonstances un peu violentes, hein, mais comme on dit, ça passe pas loin, mais on sent qu'on en réchappera. Et là, je mourrai. Et il y a une phrase, quand j'ai décrit ce passage, qui est « Je vais être mort à Paris, né à Nevers en 1957 ». Mort à Paris. Pourquoi pas à Paris, mais c'était quand même un sale coup que je faisais à ma femme, à mes enfants. Je peux me faire ramasser par un bus, ouais. Mais là, je mourrais seul et mystérieusement dans ma chambre d'hôtel.
Marine Diaye pensait que vous étiez malade de la ville, qu'il fallait que vous partiez pour la campagne.
Oui, vous voyez, c'était une sorte de piste déjà. Ce n'était pas tant la ville, puisque là, aujourd'hui, la province ne vaut pas forcément mieux que Paris en matière d'exposition, mais aux antennes de relais ou à la pollution électromagnétique, ce qu'on appelle l'électrosmog, ce brouillard électromagnétique qui envahit nos maisons et tout le territoire. Mmh. Et en fin de compte, évidemment, les tentatives de compréhension qu'elle faisait. Mais moi, j'avais une sorte d'infirmière et j'écoutais mon infirmière. Et elle m'a proposé certains voyages, nous les avons faits. Ils ont été plus intéressants, on va dire, littérairement et du point de vue théâtral, du plus grand comique, que du point de vue thérapeutique. Mmh. Mais Paris a été violent pour deux raisons. Il y a cette expérience. Bon, l'enfant, moi, est très loin. En même temps, puisque je n'étais pas mort, puisque très cabossé, très, très mal en point, je me suis retrouvé dans une ambulance. C'était mon premier voyage en ambulance.
Et puis à l'hôpital Cochin.
Oui, mais bon, quand vous êtes gosse à la fête à Neuneu et qu'on vous donne une petite rondelle en plastique à mettre dans votre auto tamponneuse, voilà, c'est la première fois que vous montez, ça vous amuse. L'ambulance m'a aussi intéressé, preuve peut-être que je n'étais pas trop éloigné de ce qu'on appelle la vie, mais ce que j'attendais, c'est qu'on allait me dire des choses désagréables, que l'insouciance avec laquelle j'avais vécu si longtemps déjà allait mettre au thé. On allait pour le moins me donner des conseils d'hygiène, de vie, etc., tout à fait désagréables à entendre, et que j'y étais très peu disposé. Et en fin de compte, il n'en a rien été, puisque là encore, on m'a trouvé dans un état formidable.
On vous a posé beaucoup de questions.
Des questions qui étaient évidemment embarrassantes, comme celle de la date de naissance de mes enfants ou celle de mon mariage. Et Marie, ma femme, avait déjà beaucoup ironisé là-dessus en disant que ma mémoire était de ce point de vue-là si mauvaise que si jamais j'étais renversé dans la rue et que pour voir ce qu'il en était de moi, on me pose ce genre de questions, elle était sûre d'aller me récupérer aux urgences psychiatriques. Mmh. Et effectivement, ces questions, on m'en a posé certaines.
Il y a une interne qui vous a posé peut-être la bonne question. Vous êtes écrivain, peut-elle demandé.
Non, pas vous. Ah non, ne jouez pas à ça. Parce que vous savez très bien, vous avez déjà eu l'expérience. Je vois, les auditeurs ne vous voient pas, mais vous vous empourprez légèrement de bonheur et d'ironie à ça. Parce que quand on vous pose cette question et que vous répondez oui, la deuxième arrive infailliblement. Et vous écrivez quoi? Alors, il y a des variantes, des romans policiers, des romans d'amour, etc. Et tous les écrivains font cette expérience-là.
Il y a peut-être un lien quand même de cause à effet entre le fait d'être écrivain et le mal, la littérature et le mal.
Moi, je lui suis énormément redevable, donc non, j'ai rien à lui reprocher. Elle ne s'arrache pas facilement de la page ou de l'écran, hein, mais il y a celle aussi que les autres nous offrent. Je reste un lecteur gourmand et non, elle est vraiment une amie, une initiatrice. Alors, une initiatrice à la vie contemporaine aussi. Là, c'est cela qui était intéressant à mener dans ce livre, à partir du moment où j'ai senti que je pouvais reprendre la maîtrise de mes instruments, c'était de voir si cette expérience avait un caractère littéraire. Et c'est ce qui m'est apparu. Quand j'ai voulu refaire démarrer ce bus où mon personnage était à l'arrêt depuis tant de mois, j'ai bien vu que lui avait été foudroyé sur place et ne s'en remettrait pas. Le manipuler, c'était revivre ce dont j'avais souffert pour arriver jusque-là. Et en fin de compte, j'ai simplement pris sa place. Et il m'est apparu que je pouvais, en ne jouant pas sur un faux suspense, en cachant au lecteur ce qui m'était arrivé entre-temps, je pourrais raconter ces 10 mois d'expérience pour la transmettre, mais sans renoncer à être écrivain, c'est-à-dire absolument en toute liberté. Mon personnage s'agite sous les yeux du lecteur en ignorant ce dont il souffre, le lecteur le sait. Et j'avais l'espoir, la prétention de penser que l'intérêt ne s'en émousserait pas pour autant.
Et tout d'un coup tombe la question que les médecins de Cochin ne vous ont pas posée. Et si c'était ça ? Si c'était ça, les antennes relais de téléphonie ?
Mais on ne vous pose pas beaucoup de questions. On ne vous pose même pratiquement aucune question sur l'endroit où vous vivez, la manière dont vous vivez, est-ce que vous voyagez énormément. Et pour venir vous voir, je suis venu avec un taxi. Et j'étais frappé du fait que son poste de pilotage, d'une certaine manière, était couvert d'écrans, de GPS, de un nombre incroyable de choses. Il avait en plus une oreillette Bluetooth. Donc ces oreillettes qui marchent aussi par ondes. Et donc je lui pose la question de savoir s'il ne souffrait pas de cela. Il l'ôte, il me dit « Ah, je l'ai parce que je l'ai oublié ». Et nous commençons à parler un peu et je lui dis que je connais assez bien le sujet et que ce qu'il est en train de me dire à ce propos, et notamment à celui de sa femme, qui souffre de bourdonnements d'oreilles, qui souffre d'un très mauvais sommeil, qui ne peut pas s'asseoir devant l'ordinateur sans avoir des maux de tête, lui-même est sujet à cela aussi. Donc, je lui demande ce qu'il y a chez lui. Il y a un four à micro-ondes, il y a une box qui irradie tout l'appartement, etc. Et en fin de compte, je
faites une consultation.
Oui, je fais un exercice illégal de la médecine au débotté, à l'arrière d'un taxi. Sauf que, en 10 minutes de parcours, cet homme travaille dans un milieu saturé d'ondes, il vit dans un milieu saturé d'ondes et sa femme a consulté un orthophoniste, plein de médecins qui jamais n'ont apporté aucune réponse. C'est le même processus à l'œuvre avec là deux personnes qui ont la cinquantaine et qui se mettent de façon inédite à souffrir de maux inédits. Et je ne sais ce qu'il en sera, mais pour lui. Mais je sais ce qu'il en a été pour moi, c'est-à-dire qu'il faut considérer que on ne guérit pas miraculeusement. Il faut changer ses pratiques, il faut donc proscrire tout ce qui peut émettre, mais il faut considérer qu'on a été une sorte de réservoir qui, à un moment, s'est mis à déborder. Vous êtes électrosensible. Nous le sommes tous, puisque nous sommes en train d'échanger. C'est un processus électrique qui forme les mots. Vos synapses transmettent des informations, les neurones les analysent, etc. Et c'est ce système qui est parasité par une trop forte concentration d'ondes. Et chacun a son seuil, et à partir d'un certain seuil, ne supporte plus ce parasitage. Et les uns les autres, nous tombons finalement un champ qui n'est pas d'honneur, comme des mouches, par ignorance, adoptant les technologies du temps sans esprit critique. Cela réclame aussi un retour, évidemment, et là on entre de nouveau en littérature sur évidemment les mœurs contemporaines. Est-ce que la littérature qui est percutée par cette modernité et de fait explosée par cette modernité a capacité à se reconstituer pour à son tour aller heurter la modernité et l'obliger à dire son nom et à dire ses mots, mots M-A-U-X, ceux qu'elle nous inflige? C'est cette sorte de retournement, de renvoi à l'expéditeur auquel se livre ce livre, qui n'avait à peu près vertu pour moi que de témoignage. Et puis sur la fin, la France étant ce qu'elle est, la ministre au développement numérique s'est livrée à une assez lamentable provocation en traitant tout ça de peurs irrationnelles. C'était à l'adresse des opérateurs de téléphonie auxquels elle souhaitait ses voeux. Et elle a été là d'une rusticité, on va dire, tout à fait lamentable. C'était la bonne élève qui voulait briller, avoir son petit moment de bonheur. Et c'était d'un mépris extraordinaire pour quand même les... Moi, je suis là devant vous et je crois être à peu près redevenu moi-même.
Je peux en témoigner, hein. Vous avez l'air en pleine forme.
Oui, mais il y a des milliers de gens qui ne le sont pas. Il y a des milliers de gens qui ont tout perdu, vie professionnelle, vie familiale, parce que est-ce que l'amour résiste aux procédures qu'implique pour un électro hypersensible au quotidien, tout un tas de sacrifices, une vie beaucoup plus complexe, et puis une santé dégradée. Vous n'êtes plus celui que l'autre a aimé, et vous avez un gâchis social considérable qui est gardé dans la plus grande ignorance. Vous avez dans des forêts, dans le sud de la France, des gens qui vivent dans des camping-cars parce que ce sont des endroits où les ondes sont moins présentes.
Sproum, roman avorté et récit de mon mal, le livre de Jean-Yves Sandré est publié chez Actes Sud. Du jour au lendemain, Jean-Richard Dufour, Anne Franqueni, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir. Thank you.